Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Le Rassemblement national a le sourire. Les derniers sondages le créditent d'une nette avance aux prochaines élections européennes. 30% d'intention de vote contre 16,5% pour la liste Renaissance ou 12% pour le PS, selon une étude d'Elab.
Électeurs patriotes, que vous ayez voté ces dernières années pour les Républicains, pour Éric Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle, pour la gauche patriote ou pour d'autres candidats. Ne dispersez pas vos voix car le temps nous est compté et la victoire est proche.
Une poussée qui semble se confirmer à l'échelle européenne. Selon un centre de recherche basé en Allemagne, les partis eurosceptiques pourraient arriver en tête des élections dans 9 pays dont la France, mais aussi la Belgique, l'Autriche ou encore les Pays-Bas. Là-bas, le PVV mené par Geert Wilders espère capitaliser sur sa victoire aux législatives de novembre dernier pour l'emporter aux européennes. Ce week-end, la Slovaquie, elle, a tourné le dos au candidat pro-européen et a préféré élire à sa place Peter Pellegrini, un président favorable à un rapprochement avec la Russie et ouvertement nationaliste.
Les résultats ont montré que la majorité des gens en Slovaquie ne veut pas d'un président libéral de droite progressiste. Que la majorité des Slovaques ont exprimé leur intérêt pour un président qui défendra les intérêts nationaux de la République slovaque.
Crise sociale, agricole, vie chère, immigration, guerre en Ukraine, le contexte actuel joue-t-il en faveur des formations d'extrême droite? Comment expliquer ce raz-de-marée annoncé? Quel poids une éventuelle coalition de partis d'extrême droite pourra-t-elle avoir dans le futur Parlement européen?
Trois invités, à commencer par Pascal Perrino. Bonsoir, politologue, bonsoir. Professeur émérite des universités à Sciences Po. Votre ouvrage « Le goût de la politique » est paru chez Odile Jacob. Selon vous, il y a un terrain de protestation très fort sur les conséquences de la guerre en Ukraine, sur les problèmes liés à l'inflation, sur l'immigration ou encore sur la crise de la démocratie. À cet égard, c'est en France que l'extrême droite est la plus puissante. À côté de vous, Yves Bertoncini, bonsoir.
Bonsoir.
Enseignant et consultant en affaires européennes. Vous enseignez au Corps des Mines et à l'école ESCP Business School. Selon vous, les partis d'extrême droite ne disent plus « on va quitter l'Europe », mais « on va changer l'Europe de l'intérieur ». Ils promettent de protéger le mode de vie, la civilisation européenne. Ils ont donc élargi leur audience. Et à côté de vous, Astrid de Villene, bonsoir. Vous êtes bonsoir. Journaliste, chef du service politique au Huffington Post. Vous êtes productrice également sur France Culture de Sens Politique tous les samedis. Selon vous, le simple fait que Jordan Bardella ait refusé deux débats télévisés montre qu'il n'a pas besoin de faire campagne pour être au nom du RN, donc il est tête de liste en tête. Il nationalise le scrutin comme si c'était un référendum anti-Macron. Et pour l'heure, cette stratégie semble gagnante. Et on démarre le débat avec le chiffre du jour.
Justement, c'est la troisième fois consécutive après ses victoires en 2014 avec près de 25% des voix, puis en 2019 avec près de 24% que le RN pourrait remporter les élections européennes en France le 9 juin prochain. Le parti de Jordan Bardella est crédité d'au moins 30% des intentions de vote et creuse l'écart avec le parti présidentiel Renaissance. Pascal Perrino, question toute simple, cette victoire du RN semble actée?
Elle semble actée parce que l'avance par rapport à la deuxième liste est pour l'instant au-dessus de 10 points. Refaire dans une campagne qui va durer 2 mois maintenant, un handicap de 10 points, c'est difficile. C'est difficile. Peut-être pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Donc c'est ça qui fait pour l'instant la pole position du Rassemblement national et de Jordan Bardella.
Certes, le parti majoritaire dit, dans les sondages précédents, les élections précédentes, les sondages étaient... Ils étaient surcotés, au final, leur score a été moindre.
Oui, oui.
Voilà leur
espoir. Ils sont peut-être surcotés, mais même si, par rapport au potentiel actuel, ils perdent 3 ou 4 points, ils se retrouvent à 7-8 points devant la deuxième liste, qui est celle de Renaissance, du parti donc, de la Macronie. Et ce qui est important pour eux, et peut-être un peu préoccupant, c'est qu'aujourd'hui, ils sont, sondage après sondage, grignotés. Le Front National ne bouge pas, reste à un très haut niveau, le Rassemblement National. Et la Macronie, en revanche, était partie à 20. On la retrouve dans certains sondages, je regardais juste avant de venir, à 16,5. Parce que la dynamique du troisième, c'est-à-dire de la liste de Raphaël Glucksmann, grignote les macronistes de gauche et les détache un peu, de la liste dirigée par Mme Valérie Ayer.
Astrid Devienne, justement, cette liste de Valérie Ayer, du parti majoritaire, elle est prise en étau entre, actuellement entre Raphaël Glucksmann et le Rassemblement national. Est-ce qu'il y a le risque d'une débâcle, justement, pour le parti du président de la République ?
Oui, il y a un risque. Après, moi, je dis toujours, dans toutes les élections, attention quand même aux sondages 2 mois avant. Parce qu'il peut encore se passer, dans l'instabilité dans laquelle on est au niveau européen, mondial et français, encore la crise agricole que personne n'avait vraiment vu venir. Voilà, tout peut arriver, donc je trouve qu'il faut faire très attention. Mais clairement, ça dit quelque chose de l'instant T, évidemment, et les écarts sont très importants. Je crois que la principale difficulté pour la candidate Renaissance, c'est qu'elle n'est pas connue des Français. Et on sait qu'en politique, en plus, dans une élection qui est déjà pas la préférée hein, des Français pour euphémiser, bah c'est pas simple de se faire connaître. Jordan Bardella et son entourage le dit comme ça. Nous, on n'a pas ce problème-là. On est ultra suivi sur tous les réseaux sociaux, tous les Français nous connaissent. Donc il se paie le luxe de ne même pas aller au débat, d'envoyer des têtes de liste parce qu'en fait, je crois qu'il le dit comme ça depuis maintenant au moins un an. Il joue la suite, il joue 2027. Donc il envoie son numéro 3, Fabrice Leggeri, qui a une recrue médiatique majeur et un symbole, hein, l'ancien président de Frontex, donc garde les gardes-côtes européens, donc il va axer sa campagne sur des thématiques et nationales sécurité. Et européennes d'immigration. Et en même temps, il joue la suite. Il était, pas plus tard que cette semaine, face à Manuel Valls dans un débat sur le Figaro, parce que lui, ce qu'il vise, en fait, c'est Matignon.
Alors, on va évoquer avec vous, Fanny Veil, les projections qui prévoient un virage à droite au Parlement européen.
Oui, en l'occurrence, les projections du Conseil européen des relations internationales, qui est un groupe de réflexion. D'après son dernier rapport, en janvier, la droite, qu'il appelle populiste anti-européenne, pourrait arriver en tête de ces élections dans 9 États membres. Regardez, l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, la France, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Slovaquie. Elle pourrait aussi arriver en deuxième ou en troisième position dans 9 autres États, notamment l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne ou encore la Suède. Si on regarde maintenant comment ça se traduirait concrètement au sein du Parlement européen, eh bien c'est identité et démocratie, le groupe de droite radicale auquel appartiennent les eurodéputés du Rassemblement national, qui connaîtrait la plus forte progression, avec, vous le voyez, un total potentiel de 98 eurodéputés, dont une moitié qui viennent de France et d'Allemagne. Ce serait ce groupe, la troisième force du Parlement européen. Juste à côté d'eux, dans l'hémicycle, le groupe ECR, les nationalistes et souverainistes, devrait remporter 85 sièges. Là aussi, c'est en hausse. Quand on assemble les deux, on aurait un quart donc, des sièges de l'hémicycle occupés par les eurodéputés de ces deux groupes. La première force du Parlement, ça resterait, vous le voyez, le Parti populaire européen, de droite conservatrice également, avec 173 sièges. Maintenant, si on fait les calculs avec tout ça, ça signifie que la moitié des 720 eurodéputés qui seront élus en juin seraient donc de droite ou de droite radicale. Yves Bertoncini, ce virage global au niveau européen à droite, donc, il est inévitable ?
Alors, il y a une vague de droitisation, certes, mais une stabilité malgré tout. S'il faut quand même dire les choses, le Parti populaire européen, les conservateurs, qui aujourd'hui ont 25% des sièges, devraient garder 25% des sièges. Les sociodémocrates, qui en ont 20%, devraient garder à peu près 20%. Je signale, puisqu'on est un soir de football, que ça, c'est la Ligue des champions, ces deux partis-là. Et c'est très atypique par rapport à la France, puisque ce sont donc les socialistes et les républicains qui, en revanche, en France, sont plutôt à un niveau moindre. Et donc, le troisième position, c'est ça, là, le suspense des élections européennes. C'est la Ligue Europa, c'est plus bas. Est-ce que ça va être la droite extrême, l'extrême droite, ou les libéraux centristes macronistes ? C'est ça qu'on voit sur les chiffres que vous donnez, qui ont légèrement bougé depuis cette époque-là.
Mais c'est parce qu'il faut s'attendre à une union entre la droite et la droite radicale, c'est ça qui
premier,
se joue ?
Premier point, la n'est pas le petite cas aujourd'hui. Tectonique des plaques, un petit glissement vers la droite, avec une progression, effectivement, de la droite extrême et de l'extrême droite. Mais voilà, qui vont peut-être avoir 10-12%. Alors vous dites, ça fait 20, et ça fait 25. Ah bon ? Bah donc vous avez créé l'international des nationalistes. Félicitations. Tout ça n'est pas du tout cohérent, pas du tout homogène. Donc c'est une vue de l'esprit. Alors que d'accord. Le PPE, le SED et les macronistes, eux, ils coopèrent depuis un mandat et ils pourraient continuer d'ailleurs à le faire. En revanche, ce qu'il faut dire une fois qu'on a regardé la situation d'un point de vue institutionnel, c'est que politiquement, ils ont une influence. Oui, politiquement. Ils peuvent gagner politiquement. C'est-à-dire que le Parti populaire européen, notamment, qui va rester en tête, tout en restant en tête, peut être influencé par cette progression et reprendre à son compte des idées qui viennent de l'extrême droite. Et c'est ça la victoire de l'extrême droite. Elle n'est pas institutionnelle, mais elle peut être politique sur toute une série de sujets.
Pascal Perrineau, le pacte asile-migration a été voté cet après-midi. On se pose la question, si jamais cette nouvelle majorité, eh bien, elle est de droite et droite radicale, est-ce que ça peut être une remise en cause de ce pacte asile-migration, ou au contraire, ce vote-là peut-il influencer le vote et aller en faveur, eh bien, des partis moins radicaux, des partis comme le PPE ou de la gauche?
Si vous voulez, je crois que depuis les débuts, l'Europe est gérée par un compromis entre la gauche modérée et la droite modérée, entre le PPE et le PSE, avec un apport épisodique des libéraux, aujourd'hui le groupe Renew Europe. C'est ça le centre de gravité, au fond, du compromis européen. Ce compromis européen existait hier, à mon avis, il existera demain, avec, un, avec un élément de fragilisation.
Il peut basculer, ce centre de gravité. Il peut basculer, ce centre de gravité.
Non, 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 je ne crois pas. Je
sur des sujets liés à l'immigration, au climat, à la Russie et l'Ukraine.
Il n'y aura pas d'union des droites. Je sors d'un séminaire du PPE. Je vous assure, j'ai vu, entendu les différents députés du Parti populaire européen, l'union des droites jusqu'aux droites extrêmes, ça n'est pas du tout leur tasse de thé. C'est eux qu'on portait historiquement sur les fonds baptismaux l'Europe. Ils vont pas s'allier avec ceux qu'ils considèrent comme étant les ennemis de la construction européenne. Et d'autre part, il y a un fantasme un peu même sur ces droites extrêmes. Les droites extrêmes n'ont jamais réussi à s'unir au Parlement européen. Il n'y a pas, vous l'avez dit, c'est un oxymore, l'international des nationalistes. Déjà, l'international des internationalistes, c'était très compliqué à faire. Les communistes l'ont découvert. Mais alors, l'international des nationalistes, c'est quasi impossible.
Juste pour le dire très clairement, c'est Giorgia Meloni, l'italienne, et Marine Le Pen ne seront pas, ne seraient pas dans le même parti, en tous les cas dans le même groupe. Elles ne s'entendent pas sur plusieurs sujets. Astrid de Vienne, pour venir sur les causes maintenant de ce, éventuellement, de cette hausse, de ce tsunami, disent certains, des nationalistes. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit que l'Europe avait le vent en poupe, qu'elle avait retrouvé des couleurs, au moment de la crise sanitaire, du plan de 720 milliards sur l'économie. Et en fait, non, elle est de plus en plus tentée, cette Europe et ces Européens, par les nationalistes. Pourquoi ?
Oui, ou par le souverainisme. Pourquoi ? Moi, je crois qu'il y a un événement fondateur, c'est 2005, le fameux référendum où les Français disent non, et finalement, il revient par la fenêtre en 2008 avec un Nicolas Sarkozy et un François Hollande à l'époque qui sont pour. Je pense que ça, ça reste quand même une forme de traumatisme démocratique. J'ajoute que je pense que l'Europe, elle est assez bureaucratique, éloignée, elle est très peu lisible, en fait, pour les Français. Les institutions, elles sont très compliquées à comprendre. Quand vous parliez tout à l'heure du pacte asile-immigration, une fois qu'il est adopté, il faut encore que les États l'adoptent.
Qui vient voter cet après-midi au Parlement.
Qui sait exactement comment fonctionne la Commission, le Parlement, Bruxelles, Strasbourg. C'est très éloigné, donc c'est pas simple de l'appréhender.
Trop de normes, ce mot qui est revenu beaucoup lors de la crise agricole, vous pensez que c'est une des causes ?
On l'a vu pendant la crise agricole, et puis en fait, surtout, il y a parfois une méconnaissance aussi, tout simplement, de tout ce que l'Europe apporte, ne serait-ce que dans le patrimoine, ou ce fameux Green Deal, il est revenu pendant la crise agricole, mais en réalité, est-ce que quelqu'un en avait entendu parler en France ? Parfois, on a tendance aussi collectivement à être très franco-français. Et là, on sait que ce sont les élections européennes sans doute les plus importantes en fait, de l'histoire de l'Europe parce qu'il y a ce contexte de guerre. Et peut-être que, alors là, on est encore tôt, je pense qu'il y a peu de gens qui savent le 9 juin que ce sont les élections. Mais en tout cas, peut-être que ça va finalement plus intéresser que d'habitude.
Bonjour, parce que c'est sur fond de guerre en Ukraine, tout cela. Et on a vu la victoire à la présidentielle en Slovaquie du candidat pro-russe. Est-ce que ça montre que les partis pro-russes ou pacifistes ont le vent en poupe dans cette élection, et parfois ils sont chez les nationalistes.
C'est un parti pro-russe, mais oui, Mme Meloni est très anti-russe, ça serait plutôt M. Salvini qui est pro-russe et qui va se prendre un gros gadin aux élections européennes, tandis que Mme Salvini va beaucoup progresser. Mme Meloni, excusez-moi. Non, moi je crois que le slogan du Rassemblement national que vous avez montré signale le mouvement, c'est-à-dire la France revient, l'Europe revit. C'est étonnant, le Front National qui veut faire revivre l'Europe. Voilà. Ces partis-là ont fait un mouvement, ils ne sont plus europhobes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus quitter. Ils veulent transformer l'Europe de l'intérieur. Oui, et donc ça, ils ont vu que les citoyens ne voulaient pas. Il y a eu un exemple au Royaume-Uni, après tout, l'Europe n'est pas une prison, mais ce n'est pas très concluant, donc ils ont bien compris que ça ne marche pas. Geert Wilders, qui avait mis encore le Nexit, la sortie, dans son programme législatif, vient de l'enlever de son programme pour les européennes. Donc, ils sont d'une certaine manière plus redoutables, si on fait l'effort de leur faire confiance sur ce revirement. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Non, on va défendre l'Europe, on va défendre le mode de vie européen, contre l'immigration, ça c'était traditionnel. Maintenant, effectivement, contre l'écologie, parce que quand même, ça nous fait changer notre mode de vie ou notre mode de consommation. Et puis contre, effectivement, c'est facile de brocarder les bureaucrates bruxellois qui incarnent une sorte de monstre technocratique, mais ce ne sont pas les seuls à nourrir cet euroscepticisme-là. Donc, ils sont un peu plus redoutables sur fond de guerre en Ukraine, sur fond de crise économique, sur fond de vote protestataire, parce qu'il faut aussi dire que ces partis, alors mélonistes un peu à part Orban, mais les partis d'extrême droite ne sont pas au pouvoir, donc ils sont le réceptacle de
on ne les a pas essayés, c'est ce qu'on entend. Voilà. On se dit que finalement, Pascal Perrineau, c'est une élection intermédiaire et que c'est à un tour, et puis que voilà, il n'y a pas forcément d'enjeu, ce qui est assez incroyable. Comme disait Astrid Vienne, il y a un enjeu européen, mais il n'est pas perçu comme ça, c'est un vote protestataire où on va porter des choses, notamment le vote anti-immigration.
Tout à fait. Alors, l'enjeu n'est pas encore né, il va peut-être naître dans la campagne. Nous sommes tout de même à 2 mois.
Oui. Hein,
donc, il se construira peut-être quelque chose, et autour en particulier de l'attitude et de la nécessité de l'Union européenne vis-à-vis des ambitions russes. Vous avez vu que le président de la République, au fond, cherche à placer le débat politique sur la question de la guerre en Ukraine et de la nécessité que le duo OTAN-Union européenne soit un duo solide afin de montrer les limites aux ambitions de Poutine.
Avec la possible envoi de troupes, avait-il dit.
Voilà. Et ça, si vous voulez, ça peut prendre dans la campagne. Parce que quand vous regardez les enquêtes, l'inquiétude, tous azimuts, toute génération confondue, tout milieu politique confondu vis-à-vis de la guerre en Ukraine et d'une éventuelle extension est très forte dans la population française. Et on se pose des questions, on sait très bien que ce n'est pas la France à elle seule qui pourra constituer une riposte efficace. Donc, quasi naturellement, les gens se posent la question, eh bien, il faut être au niveau européen ou au niveau de la solidarité atlantique, l'OTAN. Donc là, il y a peut-être un élément de faiblesse pour des partis qui, comme le Rassemblement national, préconisent tout de même une certaine forme d'enfermement national, qu'on le veuille ou non.
Alors, on va revenir sur le paradoxe de l'écologie politique qui s'effondre et on va passer par une archive. Regardez, Daniel Cohen-Bendit, score historique pour son parti, c'était en 2009 aux Européennes.
La joie se mêle à la surprise, alors qu'au fur et à mesure de la soirée, le score d'Europe Écologie augmente, pour finalement talonner celui du PS. Vers 22h, le héros du soir apparaît. Daniel Cohn-Bendit, l'art du sourire et le sens de la formule.
Ce 7 juin, c'est le D-Day de l'écologie politique. Cette histoire d'amour, et je le maintiens, de ce rassemblement, elle peut continuer. Elle peut continuer si tout le monde prend ses responsabilités.
Astrid Devienne, quel paradoxe. Tout de même, le mois de mars est un des mois les plus chauds, un dixième mois consécutif les plus chauds qu'on ait connu. L'urgence est climatique, mais l'écologie politique n'en profite pas dans les rues, dans les urnes. On le voit avec les écologistes qui sont à peine à 8% dans les sondages.
8,5% d'intention de vote.
Comment ça se fait ?
Dans les bons sondages.
Comment
ça se fait ? Encore une fois, la tête de liste, en tout cas en France, Marie Toussaint, n'est pas connue, elle est nouvelle, elle n'a pas l'expérience des autres qui ont déjà eu une autre campagne en 2019. Ensuite, je pense qu'ils sont en train de le reconnaître à demi-mot qu'ils se sont trompés de campagne, c'est-à-dire que vous avez vu leur façon de faire, ils font beaucoup d'activisme, ils peuvent faire des chorégraphies devant des grands groupes. Il y a eu cette fameuse danse de début de campagne qui a été un peu, qui a suscité l'incompréhension. On leur reproche depuis toujours, en fait, à Europe Écologie Les Verts d'être un parti d'activiste, de parler à une toute petite partie de la population. Donc ils ont du mal, en fait, à s'imposer dans cette campagne. Et puis ils ont un Raphaël Glucksmann qui leur fait concurrence parce que lui aussi parle d'écologie, lui aussi est un peu sur ce segment à gauche d'Emmanuel Macron et qui, lui, a l'expérience de la dernière fois et qui s'impose aussi dans la guerre en Ukraine puisque c'est vraiment sa marque de fabrique.
Mais à propos de l'écologie, il y a un effondrement dans tous les autres pays européens, Yves Bertoncini.
Oui,
ça ne prend pas, alors que ça devrait être au cœur des débats.
Oui, mais ça peut. Alors, c'est là où
et au cœur des votations, enfin, des votes.
Les votes et puis ensuite l'influence politique. Il y a 5 ans, il n'y a pas eu un raz-de-marée écologiste aux élections européennes. L'archive est beaucoup plus datée que celle d'il y a 5 ans.
2009.
Non, mais qu'est-ce qui se passait ? Il y avait déjà des phénomènes de réchauffement climatique et Greta Thunberg et la jeunesse étaient dans la rue. La mise sur agenda européen, ça vient aussi des élections. Heureusement, c'est une démocratie, une union de 27 démocraties, mais ça vient aussi de la société civile. Et donc, les écologistes existent en France actuellement vont sans doute faire un score plutôt, plutôt décevant. Enfin, on verra, hein, on verra, parce que souvent les sondages, dernier moment, comme ça a été dit, ça peut quand même se transcrire différemment. On verra la mobilisation, on verra les événements, ne serait-ce que climatiques, je ne sais pas, d'ici là, comme vous avez parlé des événements géopolitiques. Mais ce qui va quand même continuer à servir les thèses écologiques, si je puis dire, c'est que d'autres partis s'en emparent, vous avez cité Raphaël Glucksmann, et puis que voilà, la société civile se mobilise. Pour autant, ce qu'on a vu, le pacte vert européen a été mis en œuvre pendant 5 ans, c'est bien pour ça qu'il suscite des crispations et des protestations, et on voit qu'effectivement, du côté droit, entre le PPE et la droite extrême et l'extrême droite, là, il y a vraiment un changement de position.
Et on a vu un paquet d'agriculteurs européens, allemands, protester contre le pacte vert et contre les normes imposées par l'Europe.
Si moi je ne crois pas à l'international des nationalistes, je redoute la convergence des conservateurs. Mmh. Et là, on a vu que sur la loi sur la protection de la nature, le PPE se rallie aux conservateurs réformistes. Et que là, en effet, ça crée un socle au Parlement européen sur la base de la situation actuelle et des sondages, qui là devient significatif en termes d'inertie contre le changement climatique.
Et vous l'avez dit, c'est important, l'abstention, on ne sait pas de combien elle sera, donc en effet, ça peut faire beaucoup bouger les sondages et au final, le résultat. Pascal Perrineau, on va se projeter sur 2027, parce que tout le monde se dit, est-ce que c'est le premier round, comme certains politiques le disent, de la prochaine élection présidentielle? Est-ce qu'on peut se dire que celui qui va sortir vainqueur de ce scrutin est celui ou celle qui aura le plus de chances en 2027 ou pas?
Non, parce que, si vous voulez, les élections sont des élections tellement différentes. L'élection européenne, c'est une élection à la proportionnelle en un seul tour. L'élection présidentielle, c'est une élection au majoritaire en 2 tours. Les enjeux ne seront pas du tout les mêmes. Des événements divers et variés vont se développer d'ici 2027. Le charisme nécessaire pour être le prochain ou la prochaine présidente de la République n'a rien à voir avec le fait d'être tête de liste de 81 candidats. Donc, on ne joue pas du tout dans la même catégorie. Et d'autre part, on sait très bien que c'est un statut d'élection intermédiaire. Cette élection intervient entre 2 élections présidentielles. D'accord. Et dans ces élections intermédiaires, il y a un problème de mobilisation, vous en avez parlé, et il y a un problème de, coalition de toutes les oppositions, quelles qu'elles soient, pour essayer de faire la peau de la force qui est au pouvoir. Madame Valérie Ayer, voilà,
côté référendaire,
tous contre.
Mais Astrid de Villene, ça ne sera pas les mêmes thèmes pourtant en 2027, immigration, sécurité, souveraineté, climat, qui sans seront doute, centraux dans
c'est
le
scrutin. C'est difficile à dire 3 ans, mais moi je crois quand même que ça va donner quelque chose sur les dynamiques.
C'est si décorrélé que ça?
C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même élection et il reste 3 ans. Mais malgré tout, si on a un RN à 30%, ce qui ne serait jamais arrivé, et une liste macroniste, je dis n'importe quoi, à 18...
Aux européennes.
Vous imaginez le choc quand même dans l'opinion, un tel écart et un parti Rassemblement National qui se maintient comme premier parti de France. Là, plus personne ne pourra nier cette étiquette-là qu'il revendique depuis des années. Donc moi, je crois quand même que tous ces partis-là qui visent 2027, ils vont utiliser ce scrutin comme dynamique, comme regarder et comme aussi moment clé avant cette échéance de 2027.
Bertrand Signy, rappelons juste que celles qui ont terminé en tête dans les élections européennes présentes n'ont pas accédé à la présidentielle et n'ont pas été vainqueurs. C'est le cas de Marine Le Pen qui a gagné 2 fois.
Regardent les Européens, c'est 2 choses. D'abord, Marine Le Pen est allée 2 fois au deuxième tour et la dernière fois, elle a fait quand même 43%, sauf erreur de ma part. Et surtout, ils regardent ce système politique français si étonnant en Europe, qu'il donne tous les pouvoirs à la personne qui gagne l'élection présidentielle. Parce que M. Wilders, il arrive en tête aux Pays-Bas, il fait 24%, et il reste à 24%. Et puis après, il essaye de bâtir une coalition, et d'ailleurs, il n'y arrive pas. Tandis qu'en France, celui qui va gagner, ou celle, en 2027, prend tout. Et ça, c'est très inquiétant, parce que la France est le seul pays vulnérable à l'extrême droite à ce point.
Ce qui peut faire changer aussi les votes des électeurs, parce qu'ils sont sans tête.
Nous verrons.
Nous verrons. Parfaite chute pour ce débat. Merci à les trois d'avoir participé à notre débat.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.